Thomas Hardy, le maire de Casterbridge. Chapitre 37. Tel était l'état des choses lorsque les affaires courantes furent interrompues à Casterbridge par un événement de telle importance que son influence, ressentie jusque dans les plus basses couches de la société, vint, en même temps que les préparatifs de la Skimmity Ride, en remuer les profondeurs. C'était une de ces émotions qui laissent une trace durable dans les annales de la petite ville dont elles ont un instant secoué la torpeur, comme un bel été marque pour toujours, sous forme d'un anneau foncé, son passage dans un tronc d'arbre. Un personnage royal devait traverser Casterbridge, en s'en allant inaugurer plus loin dans l'ouest d'immenses travaux d'art. Il avait bien voulu consacrer une demi-heure à la ville et devait y entendre une allocution de la municipalité. Casterbridge, grand centre de culture, voulait exprimer sa gratitude pour les services rendus à la science agricole et à l'économie domestique par un prince qui avait toujours hautement encouragé les projets destinés à donner une base scientifique à l'art du fermage. Casterbridge n'avait plus vu le représentant de la royauté depuis le règne du roi George III. Encore n'avait-on aperçu ce monarque que quelques minutes, à la lueur des torches, pendant que sa voiture changeait de chevaux devant les armes royales. Les habitants décidèrent donc de faire de cette journée extraordinaire une vraie fête carillonnée. Un arrêt d'une demi-heure, ce n'était pas bien long, il est vrai, mais si le ciel voulait rester au beau, on pouvait, en disposant judicieusement les choses, utiliser ce temps de façon satisfaisante. La locution fut écrite sur parchemin, par un artiste habile à tracer les lettres ornées, et enluminée avec les couleurs et l'or le plus fin que le peintre d'enseigne posséda dans sa boutique. Le mardi précédant le fameux jour, le conseil se réunit pour arrêter les détails de la cérémonie. La porte de la salle était restée ouverte pendant la séance, et l'on entendit tout à coup un pas lourd monter l'escalier et longer le couloir. Henchard entra dans la pièce avec des vêtements fripés, élimés et salis, ceux mêmes qu'il avait portés autrefois lorsqu'il siégeait au conseil. « Je sens, » fit-il, en s'avançant vers la table et en posant la main sur le tapis vert, « que j'aimerais me joindre à vous pour la réception de notre illustre visiteur. Je présume que je puis venir dans votre groupe. » Il y eut un échange de regards embarrassé autour de la table, et Grower faillit avaler le bout de sa plume, à force de la ronger, pendant le silence qui accueillit cette proposition. Farfrae, le jeune maire, que sa fonction plaçait au fauteuil présidentiel, saisit tout de suite la pensée de l'Assemblée. Il lui appartenait, comme porte-parole, d'en traduire le sentiment, malgré tout le soulagement qu'il aurait éprouvé à se décharger de ce devoir sur un de ses collègues. « Je ne pense pas que cela soit possible, monsieur Henchard, » fit-il. « Les conseillers sont les conseillers, et il serait irrégulier de vous admettre dans leur rang puisque vous ne faites plus partie de l'Assemblée. Si l'on vous acceptait, pourquoi d'autres ne viendraient-ils pas aussi ?»« J'ai des raisons particulières pour désirer assister à la cérémonie. »« Je crois avoir exprimé le sentiment du conseil, » répondit Farfrae en regardant autour de la table. « Oui, oui, » approuvèrent le docteur Bass, l'avoué Long, l'alderman Tubber et d'autres encore. « Alors vous refusez de me donner une place officielle ?»« J'en ai peur et la chose me paraît tout à fait hors de question. Mais libre à vous, bien entendu, de voir toute la fête et les cérémonies comme le reste des spectateurs. » Sans répondre à cette observation un peu trop évidente, Henchard pivota sur ses talons et s'en fut. L'opposition qu'il rencontrait cristallisa en une ferme résolution ce qui n'avait été jusque-là chez lui qu'une fantaisie passagère. « Je souhaiterais la bienvenue à son Altesse royale, » disait-il par les rues, « où personne ne le fera. Je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds par un Farfrae ou par un membre de cette méchante clique. On verra. » Au jour fixé, un clair soleil brillait de bon matin dans les yeux des habitants qui se penchaient à leurs fenêtres pour interroger le levant. Tous, experts dans la prédiction du temps, affirmaient que le ciel allait rester beau. Des visiteurs affluèrent bientôt de la campagne, des villages et des hameaux isolés pour voir la réception, ou sinon pour la voir du moins pour en approcher. Des plateaux déserts descendaient des hommes en bottes huilées et en bonnets de toile. On aurait eu peine à trouver dans la ville un ouvrier qui n'eût mis une chemise propre. Salomon Longways, Christophe Coney, Buzz Ford et autres membres de cette confrérie témoignèrent de leur sens des circonstances en avançant de 30 minutes l'heure habituelle de leur shop matinale, ce qui leur rendit douloureux pendant bien des jours le retour à l'heure normale. Henchard avait décidé de ne pas travailler ce jour-là. Il absorba de bon matin un verre de rhum et rencontra en descendant la rue Elizabeth Jane, qu'il n'avait pas vue de toute la semaine. « J'ai de la chance, lui dit-il, que les 20 ans soient achevés, car je n'aurais jamais eu sans cela l'aplomb nécessaire pour mon projet. »« Quel projet ? » demanda-t-elle avec inquiétude. « Cette réception que je veux faire à Son Altesse Royale. » La jeune fille était perplexe. « Voulez-vous venir voir la cérémonie avec moi ? » proposa-t-elle. « Ah, voir, j'ai bien d'autres chiens à fouetter. Va la voir, toi, cela vaudra la peine. » Incapable d'élucider le sens de ses paroles, Elisabeth s'habilla, le cœur gros. Comme l'heure s'avançait, elle aperçut de nouveau son beau-père. Elle crut qu'il allait aux Trois Matelots, mais elle le vit se frayer un passage à travers la foule bruyante jusqu'à la boutique de Woolfrey, le drapier. Elle attendit, perdue dans le public. Elle vit au bout d'un instant Henchard ressortir de la boutique. À sa surprise, il arborait une large rosette et portait de façon plus surprenante encore un drapeau à la main. C'était un drapeau improvisé, l'un des innombrables petits drapeaux nationaux qui flottaient en ville ce jour-là et qu'il avait fiché au bout d'un bâton de bois, baguette sans doute d'une pièce de calicot. Sur le seuil de la boutique, Henchard roula son drapeau et le mit sous son bras, puis il descendit la rue. Tout à coup, les plus grands des assistants tournèrent la tête, tandis que les petits se dressaient sur le bout des pieds. On sut que le cortège royal approchait. À cette époque, un embranchement de chemin de fer se dirigeait vers Casterbridge, mais l'extrémité en restait encore distante de plusieurs milles, et cette partie ainsi que la fin du voyage devait s'accomplir par route, à l'ancienne mode. On attendait. Les familles importantes dans leurs voitures, la masse du populaire sur ses pieds, et l'on surveillait la grande route de Londres, très loin en avant, tandis que sonnaient les cloches et que caquetaient les langues. Placée au dernier rang de la foule, Elizabeth Jane embrassait toute la scène. On avait disposé des sièges pour permettre aux dames d'assister à la réception, et le premier de ces fauteuils était occupé par Lucetta, la femme du maire en exercice. Henchard se tenait dans la rue, sous les yeux même de la jeune femme, et il semblait, tant elle était jolie et rayonnante, qu'il eût lâchement cédé au passager désir d'attirer son attention. Mais il n'avait rien d'attrayant pour un œil féminin, trop porté à ne s'attacher qu'à l'extérieur des choses. Non content d'être un ouvrier, incapable de paraître sous son aspect d'autrefois, il dédaignait même de se montrer sous son meilleur côté. Du maire à la dernière des laveuses, tous les assistants avaient, selon leurs moyens, arboré une tenue nouvelle. Mais Henchard avait obstinément conservé ses vêtements usés et salis des années écoulées. De là ce triste résultat. Les yeux de Lucetta passaient sur lui pour se porter à droite et à gauche, sans se fixer nulle part, comme le font en pareilles circonstances les yeux des femmes joliment parées, et son attitude signifiait bien nettement qu'elle entendait ne plus reconnaître son ancienne amie en public. Elle ne se lassait pas un instant, au contraire, d'admirer Donald, qui menait, à quelques pas d'elle, une conversation animée avec ses amis. Il portait autour du cou la chaîne d'or officielle à lourds anneaux carrés, pareille à celle que l'on voit autour de la licorne royale. Les moindres émotions parues sur le visage de Farfrae se reflétaient et se traduisaient par des mouvements identiques sur les traits de la jeune femme. C'est à la place de Farfrae qu'elle vivait, bien plus qu'à la sienne propre, et elle n'eut ce jour-là prisé aucune situation plus que celle de son mari. Enfin, un homme posté au dernier tournant de la grande route, sur le second pont dont nous avons parlé, donna le signal convenu, et la municipalité, en robe d'apparat, s'avança depuis l'hôtel de ville jusqu'à l'Arc de Triomphe, dressé à l'entrée de Casterbridge. Les voitures qui transportaient le royal visiteur et sa suite arrivaient dans un nuage de poussière. Le cortège se forma et se dirigea, au pas d'un homme, vers l'hôtel de ville. Tous les regards se fixaient sur un espace libre, situé au-devant de la voiture royale. Tout à coup, on y vit pénétrer un homme dont personne ne put prévenir le mouvement. C'était Henchard. Il avait déployé son drapeau et, en levant son chapeau, s'avançait à la portière de la voiture presque arrêtée. Il agitait le drapeau dans sa main gauche et tendait aimablement la droite à l'illustre personnage. Oh, regardez ! Firent les dames, la laine coupée. Lucetta était prête à s'évanouir. Elizabeth Jane, qui regardait entre les épaules des gens placés devant elle, vit de quoi il s'agissait et fut terrifiée. Mais bientôt, l'intérêt que la scène éveillait en elle par son étrangeté l'emporta sur ses craintes. Farfrae, avec son autorité de mère, sut s'élever à la hauteur des circonstances. Saisissant Enchard par l'épaule, il le tira en arrière et lui ordonna rudement de s'éloigner. Le regard d'Enchard se croisa avec le sien, et l'émotion et la colère de Farfrae ne l'empêchèrent pas de voir la lueur féroce qui brillait dans les yeux de son adversaire. Pendant un instant, Enchard resta raidi, sans bouger d'une ligne, puis une impulsion inexplicable lui fit céder la place. Il se retira dans la foule, tandis que Farfrae regardait la tribune des dames et voyait les joues de sa Calpurnia toutes pâles. « Mais c'est l'ancien patron de votre mari !» chuchota Mrs. Blowbody, une dame du voisinage, assise à côté de Lucetta. « Le patron !» protesta la femme de Donald, avec une vive indignation. « Cet homme serait une connaissance de Monsieur Farfrae ?» s'enquit Mrs. Bass, la femme du médecin, tout récemment arrivée en ville à la suite de son mariage avec le docteur. « Il travaille chez mon mari, » répondit Lucetta. « Oh, c'est tout ? On me disait que c'était grâce à lui que votre mari avait pu se fixer à Casterbridge. »« Quelles histoires on raconte ! Ah oui, quelles histoires ! Il n'y a rien de vrai là-dedans. Les talents de Donald lui auraient permis de se faire une situation n'importe où, sans l'aide de personne. Il aurait réussi partout, quand bien même il n'y aurait pas eu d'Enchard au monde. » C'est en partie l'ignorance réelle des circonstances qui avait marqué l'arrivée de Donald à Casterbridge, et en partie aussi le sentiment que l'on s'acharnait, en cette heure de triomphe, à la blesser, qui poussait Lucetta à parler de la sorte. L'incident n'avait duré qu'un instant, mais il avait été observé par le royal personnage, qui avait su pourtant, avec un tact avisé, ne rien paraître remarqué d'anormal. Le prince descendit de voiture, le maire s'avança, l'adresse fut lue, le visiteur répondit, parla un instant avec Farfrae, puis serra la main de Lucetta en tant que femme du maire. La cérémonie fut achevée en quelques minutes, et les voitures roulèrent lourdement comme des chars de pharaon le long de la rue du blé et prirent la route de Budmouth pour la suite du voyage vers la côte. Dans la foule se tenaient Connie, Busford et Longways. Quelle différence avec le jour où ils chantaient aux trois matelots, fit le premier. « C'est étonnant qu'il ait pu si vite trouver une dame dans une telle position pour partager sa vie. »« C'est vrai, mais tout de même, comme on admire les beaux habits, il y a certainement ici une femme plus jolie que celle-là, et personne n'y fait attention, parce qu'elle est parente de ce sacripant d'Enchard. »« Je vous embrasserai, Buzz, pour parler si bien, » s'écria Nance Mockridge. « J'aime voir les poupées de ce genre dépouillées de leur parure. Je ne suis pas capable de jouer moi-même un vilain tour, mais sans quoi j'irais bien... » de ma petite pièce pour voir rabattre le caquet à cette belle dame. Et cela pourrait venir bientôt, ajouta-t-elle d'un ton significatif. Ce ne sont pas de beaux sentiments de la part d'une femme, fit Longways. Nance ne répondit pas, mais tout le monde avait compris le sens de ses paroles. Les allusions contenues dans les lettres lues au doigt de pierre avaient soulevé un scandale qui s'était répandu comme une brume méphitique d'un bout à l'autre de la rue du Fumier, et de là, dans les ruelles du bas Casterbridge. La foule mêlée des oisifs se divisa bientôt par une sélection naturelle en deux groupes. Les habitués du doigt de pierre s'éloignèrent vers la rue du Fumier, où ils vivaient pour la plupart, tandis que Coney, Busford, Longways et consorts restaient dans la rue. « Vous savez ce qui se manigance là-bas, je présume ?» demanda Busford aux deux autres sur un ton de mystère. Coney le regarda. « C'est la Skimity Ride que vous voulez dire ?» Busford hocha la tête. « Je doute un peu qu'ils donnent suite à leur projet, » fit Longways. « En tout cas, s'ils préparent quelque chose, ils savent garder leur secret. »« Je sais qu'ils y pensaient il y a 15 jours, en tout cas. »« Si j'en étais certain, j'irais les dénoncer, » déclara Longways avec emphase. « C'est une farce un peu grosse et bonne à mener du vilain dans la ville. » Nous savons que l'Écossais est assez brave garçon et que sa femme s'est bien conduite depuis son arrivée ici. Qu'elle ait fait quelque chose de mal avant de venir chez nous, c'est leur affaire et non la nôtre. Connie réfléchissait. Farfrae était encore aimé dans le petit groupe, mais il faut reconnaître que le maire et l'homme enrichi, absorbés par les affaires et l'ambition, avaient perdu, aux yeux des plus pauvres habitants, un peu du charme merveilleux qu'ils avaient trouvé chez le jeune et insouciant sans le sou qui chantait ses chansons comme les oiseaux chantent dans les arbres. Aussi, leur désir de le préserver de toute atteinte n'avait-il plus la même acuité qu'il eût eu au premier temps de son séjour. « On pourrait faire une enquête, Christophe, » proposa Longways. « Si on trouve quelque chose qui se prépare vraiment, on enverra une lettre aux principaux intéressés en leur conseillant de rester à l'écart. » Cette motion fut adoptée et le groupe se dispersa. Busford dit à Coney, « Viens, mon vieil ami, allons-nous-en, il n'y a plus rien à voir ici. » Ces hommes bien intentionnés auraient été surpris de savoir que la grande farce était toute prête. « Attendu pour ce soir, » avait dit Jop, en quittant au coin de la rue du Fumier les habitués de chez Pierre. « Le coup va venir bien à propos après leur gloire d'aujourd'hui et servira de repoussoir à la visite royale. » Pour lui au moins, ce n'était pas une farce, mais une vengeance.